Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015.
Salut, c'est Thomas Rozek. Alors que la France a depuis peu reconduit à la tête de l'État le président sortant Emmanuel Macron, et alors qu'on se projette déjà dans des législatives qu'on nous annonce comme un troisième tour de l'élection présidentielle, je vous propose de réécouter un extrait de la soirée électorale qu'on a organisée le 24 avril avec nos camarades de People et de Loopsider. Alors tout a été très stimulant pendant ces 4 heures de direct, mais il a fallu choisir, le reste est à retrouver sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook, et voici déjà un beau morceau de cette passionnante soirée. Bienvenue dans Programme B. Le passage qu'on a eu envie de vous faire réentendre, c'est la table ronde autour des fameuses grandes causes du quinquennat passé qui n'en ont pas été. Discrimination, racisme, sexisme, violence sociale ou policière, ces sujets majeurs ont été abordés avec pas mal de distance, une bonne grosse louche de com' et surtout des montagnes d'inaction par le pouvoir en place. Autour de la table, nous avions pour en discuter avec moi et mon camarade Nathan Morfoise de People, quatre invités de choix. Ma consoeur Rokhaya Diallo, qui anime entre autres le podcast Kif Taras, Fiona Texer et Hélène Goutani, que vous connaissez toutes et tous puisque ce sont les co-créatrices de la série Y'a pas mort d'homme que vous retrouvez tous les mois dans Programme B, une série qui aborde l'épineuse question des violences sexistes en politique, des violences que dénonce aussi le mouvement MeToo politique qu'elles ont contribué toutes les deux à initier. Et enfin, pour compléter, Abdelali El Badawi, infirmier, entrepreneur et créateur de Banlieue Santé. C'est Angèle Marais, la rédactrice en chef de la communauté Période, qui s'est chargée avec nous de les interroger. Et on a commencé par leur demander si durant ces 5 ans, on avait avancé, reculé ou stagné sur ces questions de discrimination.
J'ai pas encore de grille de réponse parce que je pense que 5 ans, c'était trop court. Mais en même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la crise sanitaire, la crise sociale, il y a la guerre, il y a énormément de choses qui se sont passées. La réalité, c'est que nous, on le voit au quotidien chez les patients qu'on touche, les femmes, les hommes qui aujourd'hui vivent les inégalités sociales. Il y a un fossé qui s'est creusé, qui est en train de se creuser encore de plus en plus. Donc, il y a des réalités, en fait, de quotidien pour des familles à faible revenu, des classes populaires très, très pauvres. Donc, je crois que nous qui sommes acteurs de la société civile, qui engageons un travail fort pour ces publics-là, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se passent et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses de manière très descendante et pas assez ascendante. On n'écoute pas assez le peuple, on ne fait pas assez avec la société civile. Et je crois que ces 5 prochaines années, parce que là, il a été élu, hein, les Français et les Françaises l'ont élu, donc il va falloir qu'il s'occupe et se préoccupe des gens.
Fiona, Hélène ?
La question était, est-ce qu'il y a eu des avancées, des reculs? Je pense qu'il y a d'abord eu une espèce d'espoir il y a 5 ans, quand on croyait encore ni de droite ni de gauche, avec une assemblée qui s'était fortement féminisée à l'époque, un groupe majoritaire qui était paritaire, et c'était une première sous la Ve République. Et puis après, il y a eu l'immense espoir qui a été suscité par la vague MeToo, où là, il y avait un boulevard pour le gouvernement en place pour prendre le train en marche et aller à la rencontre des attentes des militantes de la cause des femmes. terme. Et puis, il y a eu un reflux évident, notamment avec la promotion d'un ministre de l'Intérieur mis en cause pour viol, qui s'est passé donc aux alentours de 2020, et finalement une fin de quinquennat qui a été secouée par des scandales sexuels au sein de la majorité, donc évidemment Gérald Darmanin, mais également Nicolas Hulot, et un bilan très contrasté en matière d'avancée pour les droits des femmes.
Hélène ?
Ouais, je pense que quand Emmanuel Macron a été élu, pas mal de gens ont envie de croire un peu à cette nouvelle vague d'hommes modernes qui jouent au foot avec des jeunes à Sarcelles, etc. Et en fait, c'est un peu le problème avec le ni de droite ni de gauche, avec le centre, c'est qu'en général, il est beaucoup plus à droite. Et je pense qu'à un moment donné, dans son quinquennat, il a essayé de renforcer son électorat de droite, notamment en refusant... l'allongement de l'IVG, etc. En fait, il s'est révélé beaucoup plus réactionnaire. Je ne sais pas s'il est lui-même convaincu, mais en tout cas, voilà, il a juste favorisé son électorat de droite et il s'est droitisé sur la question des femmes sans réel budget, d'ailleurs, pour lutter, que ce soit contre les violences sexuelles ou même pour faire des vraies politiques publiques qui mettraient en valeur les droits des femmes.
Rokhaya Diallo nous a rejoint. Salut Rokhaya.
Salut.
Je te pose la même question que j'ai posée à nos invités au tout début. Il y a eu beaucoup de communication autour de ce quinquennat et autour de ces avancées éventuelles, mais j'aimerais avoir ton avis sur toutes ces questions de discrimination, de racisme, de sexisme, je vais réussir à le dire, qui on le sait sont intrinsèquement liées. Est-ce qu'on a avancé, stagné ou reculé pendant ces 5 dernières années d'après toi? C'est une question très vaste, je sais.
J'ai quand même le sentiment qu'il y a véritablement un mensonge sur une promesse qui était de faire l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat, qui a d'ailleurs été une promesse renouvelée lorsque Emmanuel Macron est entré en campagne et qui ressemble vraiment à une vaste blague, puisque après 5 ans, déclarer qu'une même cause qui n'a pas vraiment avancé est à nouveau la cause qui sera celle qui sera soutenue principalement par le prochain quinquennat, c'est effectivement, ça renvoie à une inaction certaine. Et les premiers signaux qui ont été envoyés sur cette question-là, avec une ministre pourvu de moyens de communication extrêmement importants, mais dépourvu de moyens matériels, était déjà plutôt... En tout cas, on voyait plutôt déjà des signaux assez négatifs. Là où, moi, j'avais pas forcément d'attente énorme vis-à-vis d'Emmanuel Macron en matière de justice sociale, parce qu'on l'avait vu à l'économie quand même mettre énormément de personnes dans la rue avec la loi travail. Donc on avait quand même la certitude qu'on avait un président qui allait gouverner de manière néolibérale. Il avait eu quand même pendant la campagne un discours relatif aux questions mémorielles et à la colonisation qui pouvait laisser entendre qu'on serait peut-être un peu tranquille sur ce plan-là lorsqu'il avait dit que la colonisation était un crime contre l'humanité et avait fait scandale pendant la campagne de 2017. Et ben en fait, ça a été bien pire que ce qu'on a pu voir auparavant. Les politiques islamophobes, on n'a jamais vu autant d'islamophobie à un niveau d'État que pendant ce quinquennat. Il y a quand même 718 institutions donc religieuses ou culturelles musulmanes qui ont été fermées grâce en fait à la loi séparatiste. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est que soit la loi sur le séparatisme, la loi sécurité globale ou avant la loi de 2017 qui a entériné une grande partie du dispositif d'état d'urgence, sont des lois qui sont liberticides. Et on a eu le sentiment que ces suppressions de liberté ne visaient que les personnes musulmanes ou des personnes suspectes par rapport au terrorisme. Mais en réalité, on a tous perdu des libertés pendant ce quinquennat, tous et toutes. Et je crois qu'on ne mesure pas les conséquences possibles. Donc finalement, le soulagement qu'on peut avoir à ne pas avoir vu l'extrême droite gagner, c'est le soulagement de ne pas avoir vu l'extrême droite avec ses dispositifs liberticides entre les mains. Mais ils existent. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inquiétant de voir qu'on a pu fermer des associations qui défendaient, par exemple, les droits des musulmans, se fermer avec... l'opposition de groupes comme la Ligue des droits de l'homme, sans que finalement ça ne provoque d'autres réactions qu'une forme d'indifférence apathique générale.
Angèle.
Moi j'ai même une première question sur les féminicides. Il y a 110 femmes qui ont été tuées par leur conjoint et ex-conjoint en 2020, 113 en 2021, et on décompte déjà 38 féminicides depuis le début de l'année 2022. Pourquoi on n'arrive pas à sauver ces femmes, Rokhaya?
Je pense que ça implique une transformation de fond, en fait, en termes d'approche des violences sexistes. C'est-à-dire que déjà reconnaître que le sexisme, est un problème à la fois systémique et transversal. Et c'est vrai que, tout à l'heure a été évoquée la nomination de Gérald Darmanin, qui, lorsqu'il a été nommé, avait plusieurs accusations d'agression sexuelle ou de viol qui lui étaient opposées. Et le fait de ne pas avoir attendu, en fait, que la justice soit rendue, en tout cas, se prononce sur ces cas-là, alors que dès que d'autres ministres avaient fait face à des soupçons relatifs à des malversations financières, ils ont immédiatement été tenus à l'écart. Un viol, dans le droit français, c'est un crime, c'est les assises. Et donc, ça veut dire que d'une certaine manière, le fait d'être potentiellement, enfin, d'être accusé de viol, ce n'est pas suffisamment grave pour mettre la personne de côté, ne pas l'avoir dans un gouvernement. Et Emmanuel Macron a proposé une résolution de ce qui avait quand même bénéficié, enfin, générait beaucoup de manifestations en disant qu'il avait parlé d'homme à homme avec le ministre de l'Intérieur qui, à ce moment-là, était accusé. Et donc, ce genre de message, je pense que ça contribue à alimenter le sexisme général, un sentiment d'impunité générale et un sentiment d'absence de gravité. On a un autre candidat qui a été accusé par de multiples femmes d'agression sexuelle, qui était Éric Zemmour, et je trouve que ça lui a très, très rarement été opposé. Donc, je crois que toute cette inaction renvoie un message qui entretient la tolérance sociale à l'égard des violences lorsqu'elles sont perpétrées contre des femmes. Et je crois vraiment que ce climat-là est entretenu par une inaction politique vraiment très, très explicite.
Mais même quand les femmes parlent, il y a un problème d'écoute et même d'accueil des victimes, par exemple, dans les commissariats ou même au niveau de la justice. Est-ce que, par exemple, Fiona, vous pouvez en parler ? Le fait qu'il y a un vrai problème d'accueil des victimes de violences et que qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit plus un frein, en fait ?
Il faut en faire une priorité politique. Et le premier quinquennat Macron s'était ouvert sur la promesse de pourquoi pas une femme première ministre et d'un vrai ministère aux droits des femmes. Et au final, donc, on a vu qu'il n'y a pas eu évidemment de femme première ministre, ni présidente de l'Assemblée, ni quoi que ce soit. Et il n'y a même pas eu de ministère plein aux droits des femmes, puisque c'est un secrétariat d'État qui a été retenu. Et qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas que du jargon ou est-ce qu'on se situe dans l'ordre protocolaire, ce genre de question. C'est aussi une question de priorité et également de priorité budgétaire, de priorité financière. Et lorsque les associations réclament 1 milliard d'euros pour mettre fin aux violences faites aux femmes, donc de l'argent qui serait parti à la fois sur la formation des personnels de justice, la formation des personnels de police, la création de structures d'hébergement d'urgence pour les femmes qui fuient le domicile conjugal, eh bien tout ça, ça n'est pas au rendez-vous et les budgets ont été extrêmement faibles par rapport aux besoins. Donc ce dont on a besoin pour venir à bout de ces questions-là, c'est d'en faire des priorités au sein de l'équipe gouvernementale, ce qui n'était pas le cas, et de mettre le paquet budgétairement dessus, ce qui n'était pas le cas. Et l'aveu de faiblesse de cette fin de campagne, c'est évidemment la promesse de refaire de cette question une priorité. Mais si c'est pour y mettre aussi peu de moyens une deuxième fois, on sait que ce sera de nouveau vain.
Bah, dans ce quinquennat, il y a eu 90 000 policiers qui ont été formés normalement aux violences pour l'accueil des victimes. Mais en fait, il y a une fracture parce qu'au niveau juridique, après, il ne se passe plus rien. Donc, est-ce que ça a été une plutôt belle avancée, mais que la réalité a freiné ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être Hélène ?
Déjà, en fait, je pense que ce qui est difficile, par exemple, si on prend notre code pénal, la notion de consentement n'existe pas. Elle n'est pas expliquée telle qu'elle. En fait, l'absence de consentement va être comprise, en fait, parce qu'il y a eu des violences. Enfin, il y a quelques critères comme ça, mais la notion de consentement, elle n'est pas définie. Donc, à partir de là, je pense que c'est très dur de comprendre comment, en fait, on peut définir le viol. Enfin, le viol, c'est l'absence de consentement. Si le consentement n'est pas défini dans notre code pénal, ça paraît assez dur pour la justice de prendre ça à bras le corps. Surtout qu'en fait, ça, c'est Catherine Magarès qui en parle bien. Quand une femme, en fait, va aller au commissariat expliquer, en fait, elle va devoir réexpliquer, en fait, exactement ce qui a été subi. Et en fait, c'est encore elle, son action, son avis, etc., qui va être jugée par les commissaires, par les avocats. Enfin voilà, elle va toujours re-raconter. On va jamais poser la question, comme c'est le cas d'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. C'est quoi ? Est-ce que monsieur, vous avez demandé le consentement ? Et je pense que ça montre aussi la manière dont est structuré en fait notre État, c'est-à-dire qu'en fait la femme est quand même considérée comme la propriété de l'homme. Il y a un espèce de droit de cuissage, qu'on a vu avec l'affaire DSK, l'affaire Hulot. Les hommes politiques pensent qu'ils sont brillants, ils sont forts, et pensent que les femmes sont un peu des propriétés qui vont avec le pouvoir. Et c'est ce qui se ressent aussi dans notre société, parce qu'on a cette conception assez monarchique, finalement, du corps des femmes, et que le consentement des femmes, on n'est pas capable de le définir, en tout cas dans les termes de notre droit. Voilà.
C'est ce que vous avez aussi mis en avant avec le MeToo politique.
Tout à fait. En fait, ce qui était intéressant avec le MeToo politique, c'est qu'en fait, on a des hommes politiques qui vont dire aux Français moyens, c'est pas bien de battre sa femme, c'est pas bien de la violer, c'est pas bien de harceler des femmes dans la rue. Mais eux, par contre, ils se laissent aller. Eux, pas de problème. On peut rester ministre de l'Intérieur en étant mis en cause pour viol. Il n'y a pas cette notion de ruissellement. On nous a vachement parlé de ruissellement économique. Apparemment, plus les riches sont riches, plus les pauvres deviendront riches. Pourquoi les hommes politiques ne se donnent pas les mêmes règles contre tous les Français? Et je pense qu'il y a vraiment... Et ça, ça s'est vu notamment au premier tour. Les femmes, elles ont été plus abstentionnistes qu'elles n'ont été en 2017. Je pense qu'il y a aussi cette conscience, peut-être, que en fait, il n'y a aucune action qui est mise en place pour les femmes, parce que d'abord, les hommes politiques se donnent des droits supérieurs à ceux des Français moyens et s'arrogent le droit de ne pas respecter nos corps. Voilà.
Rokaya.
Bah c'est pour revenir un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que en fait finalement quand on a des ministres qui ont été accusés, comme dernièrement une femme ministre qui était accusée de harceler une de ses collègues, on la pousse fortement vers la sortie, donc elle part du gouvernement. Quand François Bayrou ou Marielle de Sarnez très rapidement en fait après leur nomination, notamment à la justice, sont embourbés dans des affaires liées à leur précédent mandat au niveau du Parlement européen, c'est des affaires d'argent, donc là on considère qu'ils n'ont plus à rester dans le gouvernement parce qu'ils sont leur image est entachée. En revanche, que ce soit Nicolas Hulot ou Gérald Darmanin, quand ils sont accusés par plusieurs femmes, en tout cas mises en cause par la justice, et ben là, il n'y a plus finalement cette précaution qui est prise parce qu'on considère que la gravité est tout à fait relative et que ça ne nécessite pas, ça n'implique pas une honte en fait, même sociale. C'est-à-dire que cette question-là de la honte sociale d'être accusée par des femmes d'agression sexuelle, finalement, ça n'a pas l'air d'être si grave que ça et ce ne sont pas des choses qui vont faire l'objet d'une mise à l'écart.
C'est quoi le message du coup aujourd'hui qu'on envoie où Macron est réélu assez facilement avec Darmanin aux pattes, avec tout ce que vous venez de dire et que vous savez beaucoup mieux que moi en termes de ressenti, de stats? C'est quoi le message aujourd'hui qui est donné, surtout pour les législatives? Il est impuni, il peut tout faire du coup, c'est-à-dire qu'en plus il sait qu'en dans 5 ans lui il n'a pas à se représenter. Quel message envoyer politiquement à toutes ces femmes et à toutes ces personnes qui militent en ce sens?
Bah, moi, ce que j'entends, c'est que d'une certaine manière, parce que il y a la question du sexisme, mais aussi à la question d'une forme de racisme, une forme de violence par rapport aux personnes immigrées, avec la loi asile-immigration, dont l'historien Patrick Veil dit qu'elle est la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a énormément de choses qui se sont passées, qui se sont produites. On a vu quand même ce débat où Gérald Darmanin disait à Marine Le Pen qu'elle était trop molle. Donc, finalement, une réappropriation de l'idée d'extrême droite par le gouvernement à travers des dispositifs législatifs extrêmement agressifs, des violences policières comme on n'en a jamais vu, notamment pour réprimer le mouvement des Gilets jaunes, énormément de blessés, de personnes qui ont perdu des mains, des yeux, avec des ministres de l'Intérieur extrêmement durs. Et finalement, ces idées-là qui se sont installées, qui ont été promues par un gouvernement qui a passé tout son temps, en fait, à lutter contre le wokisme, contre l'islamo-gauchisme, mais jamais contre l'extrême droite, et qui finalement a réussi à installer quand même une forme de binarité factice dans ce deuxième tour où a gagné parce que c'était l'extrême droite qui était en face. Le message que je reçois, c'est que bah, finalement, ces idées-là se sont bien installées, elles sont fortement banalisées. Marine Le Pen n'apparaît plus comme une adversaire idéologique parce que moi, je trouve que quand même, dans le débat de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron n'a pas rappelé qui elle était. Il n'a pas rappelé quelles étaient les origines idéologiques du Rassemblement national. Et on a eu l'impression d'un débat courtois entre deux personnes, au-delà de leurs idées, alors que ce qu'elle incarne, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et ça, je trouve que la notion du danger par rapport à l'extrême droite, on l'a vraiment perdue. Et c'est ce que je trouve regrettable. Je trouve qu'on a perdu cette idée quand on voit les résultats, par exemple, du Rassemblement national dans les Outre-mer. Je trouve ça effrayant. Je comprends qu'il y ait un rejet d'Emmanuel Macron parce que pour les Outre-mer, c'est 5 ans de mépris à plein d'égards. C'est la perte d'une chaîne comme France O, qui était la chaîne des Outre-mer, qu'on n'a rien fait pour préserver. Donc c'est vraiment du mépris en permanence, etc. Mais que finalement, tout sauf Macron a supplanté l'idée de la dangerosité qu'on pouvait avoir par rapport à l'extrême droite. Donc je crois qu'on a vraiment beaucoup perdu et que finalement, ce qui a gagné aujourd'hui, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est l'extrême droite et ses idées et sa banalisation.
Angèle.
Désolée, j'étais hyper prise parce que c'était en train de dire. Moi, j'avais une question pour toi, Abdelali. Je me demandais, est-ce que on peut se poser la question de savoir s'il y a une différente, si toutes les femmes sont protégées de la même manière et si elles ont, par exemple, le même accès à la justice et aux soins?
Je pense qu'il y a toujours forcément des différences, malheureusement. Moi, je pars du constat, je suis infirmier, je rencontre des patientes à la maison, parfois dans des situations très, très difficiles, très précaires, qui doivent gérer leur quotidien, leurs enfants. Parfois, elles n'ont pas très peu de ressources, voire pas de ressources. Elles n'ont pas non plus de lien avec des institutions locales qui peuvent les accompagner parce qu'elles ont peur d'y aller, parce qu'elles ne savent pas y aller, parce qu'il y a toute une notion de parcours qu'il faut, je pense, vraiment facilité, qui aujourd'hui est très difficile à pour ces femmes-là. Je crois que dans nos territoires, hein, que ce soit les quartiers ou même en zone rurale, on a aussi des problématiques en zone rurale, il faut pas l'oublier. Il y a tout un enjeu, je pense, de décloisonnement des financements publics aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a plein de gens de la société civile qui font plein de choses, qui la Maison des Femmes, il y a l'USAP à Villepinte qui fait un travail formidable pour les femmes, et d'autres structures aujourd'hui qui font un travail formidable pour les femmes. Et quand tu leur demandes est-ce que tu as assez de moyens, est-ce que tu et en fait ils vivent avec très très peu de moyens, même eux dans leur travail, c'est-à-dire qu'on voit la santé, il y a des fermetures de lits. Les urgences sont bondées tout le temps, donc les urgences qui d'ailleurs sont souvent le seul moyen de suite à une violence conjugale d'aller voir, parce que ben si le commissariat refuse ta plainte ou autre, si t'as envie de constater, tu vas voir le médecin généraliste, il travaille jusqu'à certaines heures, donc les urgences sont ouvertes et on va aux urgences. Et souvent même les urgences, ils ont du mal à prendre en charge ces patientes, parce que souvent on va surtout prioriser les urgences finalement vitales, hein, mais elle sait une urgence vitale d'être battue, parce que si elle rentre à la maison, qu'elle n'a pas le choix que de rentrer, parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir un logement d'urgence ou autre, elle rentre dans un circuit où elle est enfermée, et puis elle se retrouve face à ces violences et elle vit avec ça. Donc, je crois que ce gouvernement, parce qu'il faut le dire, il a fait 5 ans, il va refaire 5 ans. Il va falloir qu'il mette encore plus de moyens, il va falloir qu'il prenne encore plus le temps d'écouter les gens, parce que c'est ce que demandent les gens. En fait, on attend d'être écouté. On quémande pas, on mendie pas. Moi, je suis pas un mendiant. Mes équipes, celles qu'on voit tous les jours, elles mendient pas. Elles ont juste envie d'avoir cette dignité, ce respect qu'on leur doit. Et je pense que les Français et les Françaises, c'est ce qu'elles demandent d'abord, cette dignité, ce respect. Et je crois que beaucoup le disent. Nous, les remontées de terrain, on n'a pas été respectés. On n'a pas été écoutés. On s'est sentis trahis, parce que effectivement, les collègues le disent, 2017, tout le monde y croyait, à cette histoire de renouveau d'un jeune quadra qui arrive, les yeux bleus, le gendre idéal pour certaines, qu'on pourrait croire que... Mais en réalité, on s'est retrouvé face à une situation où, finalement, on est 5 ans après, qu'est-ce qui se passe? On a des inégalités sociales qui sont là, qui se creusent. La santé, la réponse Covid a été très difficile à être mise en marche. On a eu beaucoup de décès, il faut le dire. Et la question des inégalités, il y a 11 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. À un moment donné, en fait, il faut repartir sur des réalités, et il faut surtout partir des réalités terrain. Et je crois que le gouvernement, si il veut changer quelque chose, c'est d'abord parler aux gens qui sont sur le terrain, qui font au quotidien des choses.
Vous dites souvent que en aidant une femme, on aide aussi ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce...
Nous, on le voit au travers du projet qu'on a porté, le Café des Femmes, parce qu'on pense que les femmes vivent... elles sont en première ligne des inégalités sociales, clairement. Aujourd'hui, elles sont celles qui peuvent lutter contre ces inégalités sociales, mais pour ça, il faut les outiller, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut créer le lieu pour ça. Et par exemple, pour nous, l'exemple, les quartiers populaires, on n'a pas ces lieux finalement de sécurité où on peut parler de tout, où on peut aussi exprimer ses attentes. Elles portent le poids de la famille, elles portent le poids des enfants, le poids financier, le poids psychologique. Quand tu lui poses la question si toi tu vas bien, elles te disent mes enfants, mon mari, mes grands-parents, mais jamais. Et toi, tu penses à toi quand? Mais en réalité, c'est ça qu'il faut revenir. Je pense que la société aujourd'hui, le monde de manière générale, pourquoi il va mal? Pour deux choses. Parce que les femmes, on les a mis de côté et franchement, on les respecte pas. Et les personnes vieillissantes. Il y a deux profils finalement. Et ces profils-là sont essentiels à notre société. Et je crois qu'il faut revenir à des réalités, c'est que finalement, prendre le temps de créer ces lieux. Donc nous, on a créé tout un dispositif avec une démarche de santé holistique qui s'appelle le Café des Femmes. Donc, c'est un lieu de vie où elles arrivent et il y a une sororité. Et dans cette sororité, elles construisent ensemble et on crée tout le parcours sécurisant finalement pour les amener à parler, à s'exprimer. Parce qu'elles vont pas s'exprimer en premier lieu. Elles vont pas dire qu'elles vont pas bien chez elles. Elles vont essayer d'abord de se chercher, de voir s'il y a un confort, s'il y a une sécurité, s'il y a de la sororité et si le lieu leur donne finalement cette opportunité de parler. Parce que souvent, la porte est fermée, souvent, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, c'est pas notre expertise. Enfin, beaucoup vous disent, c'est pas mon expertise, c'est pas... Et donc, elles vont de lieu en lieu, et finalement, elles se retrouvent, elles se disent, bon, j'arrête, j'y vais plus.
Bah, les associations, ce qu'elles montrent du doigt, en tout cas depuis 5 ans, c'est que justement le financement alloué aux violences sexistes et sexuelles a été pas conséquent ou en tout cas moindre que ce qu'on l'espérait. Qu'est-ce que vous, autour de la table, s'il y avait l'argent nécessaire, où est-ce qu'on l'investirait en premier lieu, selon vous ?
Il faudrait faire une loi cadre. Enfin, il faudrait faire un peu comme en Espagne. Ça a été mis en place en Espagne. Et d'ailleurs, il y a encore des féminicides en Espagne. Enfin, une société est...
Prend du temps.
voilà, améliorée, etc. Mais une loi cadre avec des vrais budgets où... En fait, il y a un gros problème. Quand on parle des violences sexistes et sexuelles, il y a toute la question, est-ce qu'on fait un ministère des droits des femmes ou alors est-ce qu'on met ça dans tous les voilà, dans tous les secteurs de la société?
Est-ce qu'on le met dans une case ou est-ce qu'on
exactement
part du principe que c'est systémique, justement?
Voilà, je pense que quand on fait une grosse loi cadre, par exemple, on pourrait aussi mettre de l'argent dans tous les ministères et aussi dans tous les services pour voilà, que ces questions-là soient vraiment prises en charge. Et je pense que là, on n'a pas eu cette loi cadre, on a eu que... c'était 340 millions, c'est ça ? Enfin, en Espagne, ils ont mis... au début, c'était 1 milliard et on est arrivé à 14 milliards. Et il y a eu vraiment cette volonté d'infuser dans tous les services. Et la crainte qui, à mon avis, va être... Enfin, ce qui va se produire, à mon avis... Parce qu'à chaque fois, on a vu ça quand il y a eu un candidat face à Le Pen, c'est qu'en fait, il va appliquer un tout autre programme que ceux qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que je ne pense pas que les violences sexistes et sexuelles, et au-delà de ça aussi, les droits des femmes, c'est-à-dire l'égalité hommes-femmes, etc., la parité, alors peut-être au gouvernement, mais aussi dans les services des ministères, les services des collectivités locales, les services, enfin le rectorat, enfin tout ce qui en fait fait notre vie dans les hôpitaux, etc. Est-ce que ça sera mis en place? Je le pense pas, parce que en tout cas Chirac en 2002, il n'avait pas fait une politique en incluant les électeurs de gauche. En 2017, il l'a pas fait. Macron, je vois pas pourquoi il changerait en 2022.
Bon, okay.
Bah c'est vrai qu'il y a pas de raison qu'il change, d'autant plus que là il brique plus de candidature, c'est sa dernière candidature, donc il a pas forcément d'intérêt à essayer de séduire qui que ce soit d'autre que ses propres idées, ses propres partisans. Donc c'est vrai que je vois pas de difficulté, mais je pense qu'effectivement c'est une pensée qui doit être. Je pense pas qu'on puisse comme ça prioriser, enfin dans le cas donner la priorité à un secteur plutôt qu'un autre. On n'a pas parlé d'éducation, mais c'est aussi un chantier, une source d'inégalité très très profonde. Quoi. L'école française, c'est une de celles qui reproduit le plus les inégalités sociales et qui assure la reproduction sociale, donc et qui parvient le moins finalement à faire sortir des classes sociales défavorisées les personnes qui sont dans ces classes sociales là. Donc sur l'école, il y a un chantier énorme. Et malgré les politiques de dédoublement des classes qui ont été proposées en début de quinquennat, bah finalement, il y a plein d'endroits où il n'y a pas suffisamment en fait, de locaux pour permettre le dédoublement effectif des classes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'énoncer comme ça des principes. Il faut vraiment que sur le terrain, des gens puissent avoir les moyens. Et après, ce qui s'est passé aussi au niveau des enseignants, avec la pénurie, avec le fait que dans certains secteurs, les profs ne soient jamais remplacés, jamais à temps, qu'il n'y ait pas d'anticipation par rapport à des départs qui sont des départs du type congé maternité. C'est pas un départ du jour au lendemain. Et que sur des congés maternité, par exemple, qu'il y ait des profs qui ne soient pas remplacés, ça, c'est complètement indéfendable. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème structurel. Et on a vu, par exemple, que le ministère de l'Éducation nationale, ce qu'il a fait cette année, c'est qu'il a créé un laboratoire contre le wokisme. Donc, on a envie de dire peut-être que notre argent public pourrait être dépensé de manière plus intelligente et vraiment plus effective, parce que là, c'est de la communication politique, mais il n'y a pas vraiment de projet derrière ça, derrière la lutte contre le wokisme. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est du vent, en fait. C'est des gens qui vont se réunir pour faire des rapports qui n'ont absolument aucune application possible. Et pareil, quand on a une Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui va nous dire qu'elle va rentrer dans une chasse contre les profs islamo-gauchistes, alors que les enseignants dans les universités se sont impliqués pour assurer des repas solidaires pour les étudiants qui n'avaient pas les moyens, donc ils sont impliqués personnellement, et que le problème aujourd'hui dans l'université, c'est notamment la pauvreté étudiante, la santé mentale de personnes qui... voilà, on est énormément d'étudiants qui ont mis fin à leur jour après les confinements successifs. Donc je crois que ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment penser de manière effectivement transversale, sans dire que l'urgence c'est la santé, l'urgence c'est l'éducation, ou l'urgence c'est les droits des femmes, parce que tout en fait finalement est complètement interdépendant.
Je crois qu'avant de se poser la question de quelle politique publique on veut, il y a aussi de quel gouvernement on veut et de quelle Assemblée nationale on veut, puisque là, certes, le président est élu, mais ça ne préjuge pas de la majorité qu'il aura à l'Assemblée nationale et du gouvernement qui procédera normalement de cette majorité si on lit la Constitution dans ce sens-là. Et nous, en tout cas, ce qu'on souhaite en vue des législatives, c'est que les candidats qui ont été mis en cause pour violences sexistes et sexuelles ne soient d'une part pas réinvesti par leur parti et puis surtout pas élu. Dans la foulée du MeToo politique, on a constitué un observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, et ce qu'on va chercher à faire dans les semaines qui viennent, c'est à alerter sur les cas de ces députés qui ont harcelé leurs conjointes, qui ont agressé leurs collaboratrices, on aura des surprises forcément dans la campagne. Au municipal, il y en a eu qui ont été coupables d'agressions sexuelles sur mineurs, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est possible dans une campagne législative. Tout type de profils sont possibles. Et donc, la priorité à ce stade, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'agresseurs et de harceleurs à l'Assemblée, puisque forcément, les politiques publiques qui seront votées par le Parlement sont en lien avec la personnalité de leurs auteurs et des législateurs.
C'est un beau moment, j'ai bien aimé, on en parlera après. Est-ce que ça, c'est dans le chat, c'est une question qui a été un peu avant, mais je voulais pas couper parce que les échanges sont très intéressants. Ça revient toujours là-dessus parce que c'est le dégoût justement du politique ou du politicien, et c'est le fait que après autant de violences policières, après autant de racisme, après autant de déni de féminicide, de choses de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va marcher, ce que vous proposez là? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est avec quelqu'un au pouvoir, va mettre Darmanin dehors parce qu'il a été impliqué, va essayer de repenser la manière dont il nomme ses porte-paroles, les gens autour de soi, vu qu'il est dans un peu au palais Versailles? Je retransmets un peu ça, c'est ce qui revient un peu dans le chat, c'est le côté.
Je pense qu'il y a deux façons de le voir, et on peut se dire que certes, à l'heure actuelle, le président de la République va composer son gouvernement comme il l'entend, et on l'a très bien compris lors de la dernière interview qu'il a donnée vendredi soir, qu'il se lavait les mains des accusations de viol et que ça ne l'empêcherait pas de nommer à l'avenir des hommes mis en cause pour violences sexuelles dans son gouvernement. Ça, il l'a clairement dit. Après, il faut voir aussi le pouvoir citoyen qui nous reste. Si vous, localement, dans votre circonscription, vous avez un candidat qui a été condamné il y a 2 ans pour harcèlement sexuel dans l'entreprise où il travaillait avant de faire de la politique, rien n'empêche localement de mettre une pression sur cette personne-là et de s'assurer qu'il n'ait pas les suffrages, voire qu'il perde l'investiture de son parti pour la députation. Ça, c'est quand même techniquement possible. Et ça, mine de rien, ça sauvera probablement ses collaboratrices à l'Assemblée nationale qui n'auront pas affaire à lui. Ses éventuels collègues qui n'en seront pas vous diront merci, et ce sera aussi beaucoup plus simple le jour où il faudra faire adopter un texte qui augmente le budget pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc certes, on ne va pas remettre en cause les pouvoirs du président de la République du jour au lendemain, mais si on peut agir localement et faire pression, ça peut aussi faire tache d'huile, puisque ces gens-là se serrent les coudes. Si on arrive à en éliminer certains, ça fait peser aussi, ça fait changer la peur de camp, espérons-le.
Hélène ?
Ouais, parce que justement, après la tribune qui a été publié dans Le Monde au mois de novembre 2021. Il y a quand même eu un truc très chouette qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de télé locales, beaucoup de radios locales, il y a eu beaucoup d'articles de PQR suite justement à cette tribune, parce qu'en fait, les acteurs locaux et notamment les acteurs médiatiques se sont intéressés en fait à ces personnes qui sont un peu problématiques dans l'exercice de leurs fonctions et qui ne sont pas du tout irréprochables. Comme on nous le promet à chaque quinquennat ou à chaque nouvelle législature. Et alors, en effet, l'action citoyenne est limitée, on l'a vu, voilà, il y a des millions de gens dans la rue, on a quand même une réforme des retraites. Bon. Mais cependant, moi, je trouve, j'ai été en voyant par exemple France 3 Lille faire des interviews de Marine Tourdelier, qui était avec vous tout à l'heure, voir un peu cette reprise locale et de voir qu'en fait, ces sujets-là de violences sexistes et sexuelles, elle était capable d'être saisie au niveau local, là où aussi se fait la politique, et pas seulement dans l'Assemblée nationale. Moi, j'ai un peu d'espoir.
Non, mais c'est bien, il faut des messages d'espoir, parce que là, c'est important, mais c'est dur. Et je parle pas pour moi, mais je parle pour tout le monde. Le Nini Macron-Le Pen, pour la première fois qui est un peu arrivé, on en a beaucoup parlé avec Thomas et tous nos invités avant, il arrive aujourd'hui parce qu'on est dans une situation catastrophique, et pour autant, rebelote, et pour autant en 2022, ça se trouve on se souviendra de ça, de notre débat aujourd'hui, et il y aura des nouvelles têtes, puisqu'on
est déjà en 2022, tu sais.
ça fatigue. 2027, il y aura encore des nouvelles têtes et peut-être qu'on aura encore oublié le fait qu'on a fait un barrage là, mais bon. Je retransmets juste un gros désaveu du chat qui, justement, le nini maintenant est digéré et maintenant il y a le côté Macron qui ressort. Voilà.
Je fais un peu un grand écart et pour parler d'égalité salariale, parce que c'est un peu aussi le combat de l'égalité femmes-hommes finalement. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les femmes qui ont le même job que leurs collègues masculins dans la même entreprise, avec le même temps de travail et ayant les mêmes diplômes, gagnent tout de même un peu plus de 5% de salaire en moins que leurs collègues hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire juste pour gagner le même salaire que les mecs d'une manière générale ?
Je pense qu'il faut passer par la contrainte, en fait. Je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs d'évaluation qui soient vraiment concrets. Et je pense que les gens ne marchent qu'à la contrainte. On a pu voir, par exemple, que, alors sur un sujet proche, mais pas tout à fait équivalent, que c'est en faisant passer une loi sur les quotas de nombre de femmes dans les conseils d'administration avec la loi Copé-Zimmermann, que finalement, durant la dernière décennie, ça a complètement transformé la composition des conseils d'administration. Donc là, on parle quand même d'une catégorie particulière de femmes qui sont celles qui appartiennent aux conseils d'administration. Mais même la loi sur la parité en politique a complètement transformé la vie politique en 20 ans. On peut en voir les effets. Donc là, la contrainte, la sanction, le fait aussi de permettre aux femmes de pouvoir se protéger en cas de discrimination, parce qu'en fait, ça s'appelle techniquement une discrimination, le fait de ne pas gagner le même salaire qu'un homme pour un travail équivalent. C'est ça. Donc il faut aussi que derrière, il y ait des sanctions quand il y a des discriminations. Et ça, c'est dans tous les cas. Finalement, parce que quand on regarde les questions de droit du travail, il y a très très peu de personnes, morales en tout cas, qui sont sanctionnées du fait de discrimination. Et je crois que la discrimination et la crainte de la sanction, y compris juridique, en termes de réputation, c'est aussi quelque chose qui peut encourager des pratiques plus égalitaires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même qu'au niveau de la justice, au niveau des magistrats, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, enfin vraiment de la démunition. Et donc, il y a un travail à la fois d'éducation à faire, mais aussi un travail vraiment d'outillage qui permettrait de garantir une égalité, mais avec des outils concrets.
Il y a aussi, dans l'inégalité salariale, il y a aussi le fait que les femmes travaillent souvent moins que les hommes.
Bien sûr.
Il y a le fait qu'on est des mi-temps.
Que les congés parents et maternité soient sanctionnés aussi.
Voilà, plus de précarité, parce qu'on est dans les conditions plus précaires aussi. Est-ce que, Abdelali, toi, tu vois sur le terrain qu'il y a une précarité des femmes qui est plus ample ?
Oui. Ben, déjà, on a une explosion des familles monoparentales. On sait aussi que clairement les femmes sont celles qui vont garder les enfants, hein. C'est souvent pas les pères. Et donc forcément ça va précariser. Il y a une étude scientifique qui est sortie aux États-Unis qui dit que si tu donnes $300 de plus à une femme en situation de précarité avec enfant, ça joue sur le cortex cérébral de l'enfant de manière très positive, parce que ça sécurise un peu plus la femme. Et donc forcément, la notion d'argent, elle est liée finalement à tout le cadre, mais aussi à ce que peut apporter la femme à ses enfants ou à elle-même en tant que bien-être. Nous, on l'a tellement vu qu'on a décidé d'agir et de pas attendre que le gouvernement fasse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait des clés de bras aux grands groupes pour leur dire « Ok, vous voulez recruter ?» dans certains territoires parce que vous avez envie, vous voulez former, ok ? On va nous créer un programme qui s'appelle Papillon. Ce programme, c'est tout un accompagnement qu'on a formalisé, mais en partant surtout de l'écoute de ces femmes, qu'est-ce qu'elles veulent faire, où est-ce qu'elles ont des moyens de mobilité, etc. Donc, prendre le temps de respecter aussi leurs contraintes, finalement, de vie familiale, parce qu'elles ont envie d'avoir une vie familiale. C'est pas juste aller trouver un boulot et se casser le dos et finalement laisser tomber sa vie familiale, sa vie personnelle, parce que la notion de bien-être doit être hyper importante dans ce travail-là. C'est pas juste de dire on va faire des projets, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle-même, elle puisse se sentir dans cette, je dirais, respectée dans cette société. Donc, on a aussi monté toute une charte, finalement, d'entreprises bienveillantes à l'égard des femmes. Et donc, on est en train de vraiment faire cette clé de bras au grand groupe en leur disant, OK, vous voulez avoir une responsabilité sociétale, c'est super. Vous voulez faire du hashtag, je sais pas quoi, c'est super. Mais il faut arrêter le bullshit. On va parler concret. On va parler avec les gens qui, aujourd'hui, vivent les précarités, les inégalités. Et ce sont ces femmes, surtout, qui vivent ces inégalités. Donc, vous allez travailler de manière... En fait, il faut les forcer. Je crois que ce que dit effectivement Okaya sur la notion de mettre des mesures d'impact, des mesures concrètes, d'engager un travail fort aussi pour que on oblige l'État, mais aussi les grands groupes. Parce que en réalité, si on oblige les grands groupes, forcément, à un moment donné, l'État, il va suivre. Et moi, je crois que c'est ça aussi la stratégie qu'il faut avoir, c'est aller voir le privé,
pour que le public y suive. Et ça aussi, c'est important. Parce que l'État, c'est une machine, et le temps que ça arrive, s'il se passe 2 ans, 3 ans, puis à la fin, bon, bah, on est déjà sur la cinquième année, il faut revoter. Non, on y va tout de suite avec le privé, on verra après si le public joue le jeu ou pas.
On parlait tout à l'heure du congé maternité. Il y a le congé paternité qui a été augmenté, mais qui n'est pas une obligation de le prendre. Qu'est-ce que ça dit aussi des avancées en demi-teinte de c'est possible maintenant, mais en même temps, c'est pas forcément obligatoire.
En fait, on a avancé sur ça, mais on n'a pas avancé sur d'autres choses qui concernent les femmes du quotidien. Et je crois que moi, je suis super content qu'on a avancé sur la parentalité chez les hommes et tout, mais en réalité, il faut revenir à des bases. Les femmes vivent encore plus des inégalités. C'est à elles qu'il faut donner plus de moyens, plus de choses, plus de. Je pense que c'est pas juste. Voilà, on fait une conférence de presse. Voilà, c'est super. On met 2-3 femmes. Voilà, une comme ci, une comme ça. Non, faut arrêter. Il faut. Les gens. Voilà, ils ont besoin de remplir leur frigo, tu vois.
Du coup, on a parlé de discrimination. Il y a un sujet qui a beaucoup été repris pendant le débat et les présidentielles d'une manière générale. C'est celui du port du voile. Qu'est-ce que ce débat qui est tout le temps remis sur le tapis dit et retranscrit de la réalité de la société française d'une manière générale?
Bah, comme tu disais, on se bat pour les idées d'extrême droite en France, en fait. Et on félicite une femme voilée d'être aussi féministe. C'était une séquence quand même assez improbable.
Est-ce que tu peux raconter pour ceux qui n'ont pas vu?
Oui, bien sûr. Donc, on a Emmanuel Macron qui est à Marseille. Et en fait, Marine Le Pen a dit quelques jours auparavant, je ne suis pas exactement sûre des dates, mais a dit que voilà, il y avait une inflation des femmes voilées. Donc, avec ce terme économique très étrange sur un... Je sais pas, c'est religieux, c'est très étrange. Ouais. Et donc, il s'est dit que bah, finalement, on était quand même dans l'entre-deux tours. Donc, il fallait quand même montrer qu'on n'était pas autant l'extrême droite que l'extrême droite. Donc, il est allé voir à Strasbourg, dans une foule, une femme voilée, à qui il a demandé si elle le portait par choix ou pas. Et la femme lui a bien dit qu'il était féministe. Il a trouvé ça beau. Et j'ai trouvé ça, moi, personnellement, très condescendant et très étrange. Et il y a vraiment une obsession sur la question du voile, et c'est vraiment... moi, ça m'a rappelé, en fait, le passage d'Armanin-Le Pen, où on a Darmanin qui dit à Le Pen qu'elle n'est pas assez dure sur les questions d'islam. Mmh.
Qu'elle est un peu molle.
Ouais, et voilà. Et je trouve que c'est... Enfin, il y a vraiment une réappropriation des idées d'extrême droite par la droite dite normale. Et ça, pour le coup, on a perdu un combat, et en plus, c'était quand même une campagne où on a parlé de remigration, de grand remplacement, enfin, c'est des termes fascistes. Et sauf qu'en fait, là, dans l'entre-deux-tours, on a beaucoup parlé du voile, etc. Parce qu'en France, on aime bien se prendre la tête sur le voile, mais c'est vraiment un peu la pointe de l'iceberg où tout le monde, en fait, c'est tolérable. Comme quand tu parlais de la loi sur le séparatisme, on peut s'attaquer tranquillement à une minorité religieuse en France en 2022. Je suis peut-être un peu...
Mais d'autant plus qu'en fait, tout le quinquennat a été absolument obsessionnel par rapport aux signes d'expression religieuse des musulmans et toujours sur ceux des femmes. C'est-à-dire que, en fait, ce dont on se rend compte quand il s'agit d'islamophobie, c'est que, à conviction égale, ce sont toujours les femmes, en fait, qu'on va regarder, qu'on va scruter, qu'on va agresser, qu'on va empêcher de vivre, en fait, d'avoir des activités normales, quand, en fait, les hommes vont pas forcément être perçus de la même manière, en tout cas, vont pas faire l'objet de débats. Et c'est toujours autour du corps des femmes. On se souvient que Jean-Michel Blanquer, d'un côté, nous disait qu'il pensait que le voile n'était pas souhaitable en France, et de l'autre côté, il trouvait que le crop top, c'était pas une tenue républicaine. Donc, dans une espèce de truc où en fait c'est un homme d'un certain âge qui est ministre de l'éducation qui va nous dire qu'en fait pour être une femme respectable républicaine il faut s'habiller comme ça, donc pas trop voilée mais pas trop découverte non plus. Et donc Emmanuel Macron a laissé dire ça, lui-même a dit que le voile nous insécurisait parce qu'il ne correspondait pas à la civilité française, donc voilà, toujours avec des implications un petit peu racistes, hein. Je pense qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. Et entre deux tours, tout d'un coup il se réveille parce qu'il se rend compte que 70% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon et il se dit que c'est un électorat qu'il faut draguer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à une femme voilée, il va la féliciter effectivement de manière condescendante en disant que finalement, qu'elle soit féministe, c'est juste merveilleux. En étant en opposition avec tout ce qu'on a entendu depuis 5 ans, il y a quand même pas si longtemps, on débattait de savoir si les femmes qui portent un foulard ont le droit de faire du foot. Enfin, on est quand même dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques à Paris, donc des gens qui vont venir de plein de pays, y compris des femmes de pays où il y a des majorités musulmanes, donc avec des foulards. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel signal on renvoie? Et je trouve qu'il y a vraiment une forme d'hypocrisie où on s'est acharné sur une minorité très très peu visible qui avait pas la parole pendant 5 ans, et tout à coup, entre deux tours, on dit bon bah c'est super madame. enfin voilà, j'aime trop ce que vous faites, quoi. Alors que ça fait 5 ans qu'on empêche cette même femme de vivre, de faire du foot, d'être candidate dans The Voice ou de faire plein de choses que, enfin, dès qu'une femme qui porte un foulard apparaît publiquement, elle fait l'objet de polémiques et aucune d'entre elles. Enfin, il y a pas longtemps, je repense justement quand on parlait de la question du sport, Elisabeth Moreno, excusez-moi. J'ai exhumé une personne inutile dans cette conversation, donc. Elisabeth Moreno, donc la ministre des droits des femmes, a dit que le sport c'était un support d'émancipation et que donc les femmes qui font du foot avec des foulards n'ont pas, il y a pas de raison qu'on les empêche de faire du football. Et en fait, elle a été rappelée par Gabriel Attal, par Marlène Schiappa. Enfin, et donc on se dit c'est pas maintenant en fait qu'il fallait se réveiller. Emmanuel Macron, fallait le faire au moment où il y avait des femmes qui ne pouvaient pas faire du foot à l'extérieur de chez elles. Donc c'est toujours ça, cette forme d'hypocrisie où finalement on a passé, ça fait depuis 1989, en fait, qu'on parle des femmes qui portent le foulard, et en fait, qu'on n'arrête pas d'être obsédé là-dessus, là où, en fait, les femmes dans la majorité ne voient pas leurs droits progresser comme ça devrait être le cas.
Mais il y a pas mal de réactions aussi là-dessus, sur le rôle des politiques dans ces questions-là. On a vu Sarkozy, c'était comment ça s'appelait, Identité nationale, virgule ouais, d'Islam,
ministère de l'Immigration et Identité nationale.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, très tristement, des Françaises et des Français qui votent à proprement parler pour des partis fascistes et racistes et que c'est pas que la faute des politiques?
Non, mais après, c'est sûr que dans le vote pour l'extrême droite, il y a un moteur raciste. C'est-à-dire qu'il faut pas le négliger. Ce discours qui consiste à systématiquement dédouaner les gens en disant les pauvres, ils souffrent, etc. Quand on vote pour l'extrême droite, c'est pas un vote anodin. Donc ça veut dire que soit on est en accord avec ces idées-là, soit que ces idées-là ne nous indisposent pas suffisamment pour qu'on tente de les freiner. Donc il y a vraiment, parce que le programme de Marine Le Pen, c'était un programme qui était explicitement xénophobe et raciste dans ses dispositions et complètement, qui n'avait rien à dire, en fait, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Après, je crois que les Françaises sont aussi sensibles aux débats tels qu'on les pose. Quand, à l'époque de Nicolas Sarkozy, il y a eu tout un débat sur le voile intégral. Et on a vu une différence, en fait, d'opinion entre le moment où il n'y avait pas de débat sur le voile intégral, où, en fait, les gens étaient relativement indifférents à cette question. Et à partir du moment où c'est devenu une espèce de débat qui faisait un tapage médiatique, tout à coup, les Français étaient hostiles au port du voile intégral. Donc je pense que quand on vous amène un problème et qu'on vous répète que c'est un problème, ça finit par devenir un problème dans votre tête.
Oui. Angèle, il nous restait une question à aborder.
Ouais, une dernière question. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les 5 prochaines années finalement?
Wow.
Qui veut commencer?
Qui se lance?
Moi, j'espère une lecture attentive du rapport du GIEC qui laisse 3 ans pour endiguer l'inaction climatique. Et voilà, ce serait peut-être le premier combat et la première tâche à laquelle s'atteler. Si on veut avoir l'opportunité de pouvoir
s'attaquer
aux autres.
Tout à fait. Hélène ?
Je partage ce que vous avez fait. Je pense que c'est très important également. Et peut-être une campagne d'avoir une campagne des législatives peut-être plus intéressante que les fois dernières, puisque à chaque fois les législatives, c'est un peu ça conforte un président dans sa majorité. Là, on va avoir une période des législatives assez longue par rapport à 2017 et peut-être, en tout cas, on pourra peut-être espérer des surprises, mais de l'autre côté du bord politique. Enfin, voilà.
Il y a peu d'engouement sur les positifs sur les sacs.
Okay, yeah. Oui, pour rejoindre ce que tu dis, peut-être un intérêt pour la politique en dehors de l'élection présidentielle, parce que malgré tout, même si les gens sont beaucoup abstenus aujourd'hui, il y a quand même des mouvements sociaux qui ont été extrêmement intenses tout au long du quinquennat, à différents niveaux, sur plein de sujets, sur le sujet du climat, sur le sujet des violences sexistes, sur le sujet aussi des violences policières. Et donc, et après évidemment l'égalité sociale avec les gilets jaunes ou les questions des retraites. Et donc, j'espère que qu'on arrivera justement à installer un rapport de force avec la rue, en fait, avec le terrain, et effectivement que des élections intermédiaires comme législatives, mais aussi les élections européennes qui comptent beaucoup plus qu'on ne le croit et qu'on ne le ressent, parce que l'essentiel de nos lois, il faut quand même le rappeler, sont issues du Parlement européen. Donc que là, effectivement, on arrivera aussi à faire à traduire en fait toutes tous les mouvements, toutes les mobilisations qui existent en dehors de cette élection présidentielle, qui reste quand même une étape parmi tout ce qui compte politiquement.
Adélie.
Ce que j'espère, c'est qu'on arrête de cliver les Français et les Françaises, qu'on laisse tranquilles les Français et les Françaises, qu'elles soient de confession musulmane ou pas, qu'elles aient envie de porter le voile ou pas. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 11 millions de pauvres en France qui vont ne cesser que d'accroître. Et je crois que les réalités aujourd'hui de la justice sociale, de la justice climatique, parce qu'il faut aussi le dire, hein, la question du climat va durement frapper les plus pauvres d'abord, et non pas celles et ceux qui ont les moyens de se défendre. Et surtout, je pense que en ces temps très troubles, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aimer les autres.
L'intégralité de cette émission commune entre nous, Loopsider et People, elle est à retrouver sur la chaîne Twitch de People, sur le Facebook de Loopsider ou sur la chaîne YouTube de Binge Audio, tout comme la soirée du premier tour, que je vous conseille aussi, évidemment. Merci à Fiona Texer, Hélène Goutani, Rokaya Diallo et Abdelali El Badawi, ainsi qu'à tous les invités et à toutes les équipes mobilisées pour ces deux événements. Merci à Elisa Grenet d'avoir réalisé cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Best. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos appli de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.